Je vais tout vous imposer, la lecture de ce que j'ai écrit, parce que vous êtes quand même fatigués. Alors je vais voir, hein, si c'est trop lourd, vous m'arrêtez. Donc nous avons titré comme conclusion de notre session Jean-Paul II, Benoît XVI, pape témoin et collaborateur courageux de la vérité. Nous allons refaire un petit peu, en conclusion, le parcours que nous avons accompli. Ce parcours a été riche, il a été très dense. Je vous remercie encore de votre patience, de votre persévérance et de votre courage. Pendant 3 jours, vous auriez pu faire un choix d'une détente. Vous avez déjà vécu une année fatigante et vous avez le droit à une vraie détente. Mais pour votre propre formation, vous avez choisi de faire cette session. Elle n'a pas été de tout repos, elle a même été très fatigante. Grâce à Dieu, le temps a été favorable, donc nous n'avons pas eu la chaleur de l'année dernière. Et Dieu veut vous récompenser de votre labeur. Vous êtes davantage conscient de la splendeur de la vérité qui rayonne sur le visage de Jésus transfiguré. Et lorsque nous fêterons le prochain 6 août, cette fête de la transfiguration, nous repenserons à tout ce que nous avons approfondi et nous rendrons grâce à Dieu d'avoir donné à l'Église Jean-Paul II et de lui avoir donné le courage de signer l'encyclique Veritatis Splendor le 6 août 1993. Notre fondateur s'est profondément réjoui de cette encyclique. Nous nous sommes efforcés de la faire connaître, mais nous avons aussi souffert, avec notre pape, qu'elle n'ait pas été reçue partout et par tous les baptisés comme elle aurait dû l'être. Nous pouvons penser que Jean-Paul II a dû très probablement participer à la souffrance de Paul VI devant la non-réception par un grand nombre de son encyclique Humanae Vitae. Cependant, et là est notre espérance, Veritatis Splendor, cette encyclique lumineuse, comme Humanae Vitae, cette encyclique prophétique, serviront le renouveau de l'Église et du monde. Après le triomphe du cœur immaculé de Marie, dont nous avons parlé samedi, et que Benoît XVI nous invite à hâter par nos prières et sacrifices, ces encycliques seront étudiées, approfondies, assimilées, et elles permettront à beaucoup de baptisés de mener le beau combat olympique de la pureté et de participer au triomphe de l'amour de Dieu et à l'instauration de la civilisation de l'amour sur le solide fondement des commandements de Dieu et de la vérité. Alors faisons la rétrospective de notre session. D'abord samedi après-midi, nous avons voulu souligner au cours du premier enseignement et avec les 3 témoignages qui ont suivi, en fait il y en a eu 4, que l'encyclique de Jean-Paul II était profondément ancrée dans l'Évangile. Ce grand pape a été un grand philosophe moraliste. Son chef-d'œuvre, dont j'ai parlé 2 fois, Personne et Acte, ce chef-d'œuvre aurait pu faire que son encyclique morale se serve de tous ses travaux précédents et se fonde sur les principes de la philosophie morale. Il aurait pu faire une encyclique uniquement fondée sur la loi naturelle et sur la philosophie morale. Telle n'a pas été son intention. Le fondement de son encyclique est d'abord et avant tout l'Évangile. Nous vous invitons, après cette session, pendant ce temps de vacances, à méditer attentivement et paisiblement le commentaire que ce bienheureux pape a fait du passage évangélique sur le jeune homme riche. La morale chrétienne, veut-il nous faire comprendre, n'est pas la morale stoïcienne. Il ne s'agit pas de devenir saint à la force du poignet. L'Église ne nous demande pas de faire des exploits, mais tout simplement d'observer les 10 commandements de Dieu et de suivre Jésus. Suivre Jésus signifie mettre nos pas dans ses pas. Suivre Jésus signifie être conscient que sans lui, on ne peut rien faire. Suivre Jésus signifie tendre à l'imiter. Mais nous savons très bien que nous ne pouvons pas, par nos pauvres forces, imiter Jésus. Les apôtres ont été bien lamentables pendant la passion de Jésus. Ils l'ont trahi, renié, abandonné. Pourtant, à l'exception de Judas, tous ont suivi Jésus. Que s'est-il donc passé? Ils ont reçu au jour de Pentecôte le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit les a transformés. Voilà le grand message de Veritatis Splendor. Jésus, le Fils de Dieu incarné, est venu révéler le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. Au jour de la transfiguration, a été révélé en sa personne le mystère de l'homme appelé à vivre éternellement en Dieu. Cette splendeur de la vérité, l'Église doit en vivre et en témoigner. Elle doit être l'Église de la foi, de l'espérance et de la charité. Elle sait que Jésus, par l'œuvre de la rédemption, a vaincu le monde. Malgré tous les péchés de l'humanité, malgré le combat du dragon rouge décrit dans l'Apocalypse au chapitre 12, la vérité vaincra. L'homme pécheur que Jean-Paul II appelait l'homme historique n'est pas condamné au mal, n'est pas condamné à la misère, n'est pas condamné à la damnation. L'homme pécheur n'est pas maudit de Dieu, mais il est appelé à s'ouvrir dans la foi et la confiance au Christ rédempteur qu'il a aimé et qui s'est livré pour lui. L'homme pécheur ne peut que s'enthousiasmer avec saint Paul lorsqu'il reçoit la grâce de la justification et le don du Saint-Esprit. Le chapitre 8 aux Romains. Qui pourra le séparer de l'amour de Dieu? Aucune puissance spirituelle et temporelle, car rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu s'il observe les commandements de Dieu avec la grâce du Christ et les dons du Saint-Esprit. Nous avons conclu ce samedi après-midi en citant la conclusion de Veritatis Splendor que nous avons déjà relue plusieurs fois mais qui est tellement importante. Marie est un signe lumineux et un exemple attirant de vie morale. Sa vie seule est un enseignement pour tous, écrit saint Ambroise. Marie vit et met en œuvre sa liberté en se donnant elle-même à Dieu et en accueillant en elle le don de Dieu. Et je ne cite pas tout parce que vous pourrez reprendre ce qui est dit, mais je cite encore ce que j'ai dit deux fois et qui nous fait comprendre, on peut dire, c'est la volonté profonde de Jean-Paul II. Jean-Paul II qui est le témoin du Christ, Jean-Paul II qui est le vicaire du Christ, qui voit que l'homme s'égare lorsqu'il s'égare de Dieu. Et bien Jean-Paul II a voulu conclure par cette phrase, par ce passage si important. Pour la même raison, la Vierge Marie n'accepte pas que l'homme pécheur soit trompé par quiconque prétendrait l'aimer en justifiant son péché, car elle sait qu'ainsi le sacrifice du Christ, son Fils, serait rendu inutile. Aucun acquittement futile, prononcé par des doctrines philosophiques ou théologiques complaisantes, ne peut rendre l'homme véritablement heureux. Seule la croix et la gloire du Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience et sauver sa vie. Voilà, je crois que tout ce que Jean-Paul II veut faire passer est dit là. Les témoignages qui ont suivi notre enseignement vous ont fait comprendre qu'en fin de compte, le message fondamental de l'encyclique est l'appel à la sainteté. Cet appel, Jean-Paul II l'a tant de fois fait retentir dans le monde. Au cours du jubilé de l'an 2000, il l'a fait d'une manière plus intense encore. J'entends encore sa voix dans ma mémoire. N'ayez pas peur d'être des saints, soyez ce que vous devez être et vous mettrez le feu de l'amour dans le monde. Cet appel, j'en suis convaincu, Jean-Paul II nous l'adresse au terme de cette session. Nos paroles ne doivent pas être contredites par notre vie, alors prenons cette décision de marcher sur le chemin de la sainteté. Samedi soir, nous avons abordé la première partie du chapitre 2 de l'encyclique. Ce chapitre, nous l'avons dit et redit, est très difficile. Pourquoi est-il si difficile? Tout simplement parce que Jean-Paul II a voulu synthétiser les principales erreurs enseignées en théologie morale dans des universités catholiques ou dans des ouvrages théologiques. Une synthèse est toujours très difficile à comprendre si l'on n'a pas connaissance du traité de théologie morale dont il est fait synthèse. Jean-Paul II ne pouvait pas être analytique dans ce chapitre 2, sinon il aurait fallu plusieurs tomes pour Veritatis Splendor. Il s'adressait à ses frères évêques, ne l'oublions pas, ses frères évêques qui pouvaient facilement faire appel à leurs théologiens pour mieux approfondir les théories erronées en question. Le rapport liberté-loi est toujours très actuel. L'homme de notre temps est assoiffé de liberté. Nous le voyons plus particulièrement encore avec la grave crise qui secoue les pays arabes et qui est loin d'être surmontée, puisque pendant que nous faisons la session, en Égypte, de nouveau, on est descendu sur la place et en Syrie, les événements ne s'arrêtent pas. Voilà. Donc, et une crise grave. La France est fière de se présenter comme la nation dont la devise est liberté, égalité, fraternité. Les États-Unis d'Amérique se veulent les défenseurs de la liberté. L'Église ne peut pas rester silencieuse sur ce thème de la liberté. Elle ne peut pas, bien évidemment, accepter que des théologiens moralistes enseignent des théories contraires à la révélation, mais aussi à la loi naturelle. Jean-Paul II a montré, en s'appuyant sur l'écriture, la tradition et sur une sainte anthropologie, que l'homme n'est pas liberté absolue, mais qu'il est créé à l'image de Dieu. Sa liberté lui est donnée par Dieu. Cette liberté est fragile. Par le péché, il peut tomber dans l'esclavage. Dieu a fait don à son peuple de la loi des 10 commandements. Cette loi explicite le contenu de la loi naturelle que tout homme pourrait découvrir et devrait découvrir par sa raison. La loi naturelle ne contraint pas la liberté, mais elle est au contraire au service de la vraie liberté. L'homme devient pleinement libre en imitant Jésus qui a parfaitement accompli la volonté de son Père. La Vierge Marie est aussi pour nous modèle de la parfaite liberté spirituelle obtenue par l'obéissance à la loi de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint. Et je cite encore ce que je disais samedi soir dans ce passage du texte lumineux de la Commission théologique internationale, dont je vous ai dit hier, l'un des rédacteurs principaux est un Français, le Père Bonino, qui est dominicain à Toulouse et à qui nous devons rendre hommage. Avec la loi nouvelle, qui est une loi essentiellement intérieure, loi parfaite de liberté, le désir d'autonomie et de liberté dans la vérité qui habite le cœur de l'homme atteint ici-bas, sa plus parfaite réalisation. C'est du plus intime de la personne habitée par le Christ et transformée par l'Esprit que jaillit son agir moral. Mais cette liberté est toute au service de l'amour. Vous, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité mettez-vous au service les uns des autres. Nous vous invitons aussi à particulièrement approfondir ce que Jean-Paul II n'a fait que citer brièvement sur cette très grave erreur. La liberté ne concerne pas seulement notre esprit, elle concerne aussi notre corps. Considérez que tout ce qui relève du corps n'aurait aucune influence sur notre liberté, entraînerait des conséquences désastreuses dans le domaine des mœurs. Ainsi, on pourrait s'auto-justifier et considérer que l'on peut bien être disciple de Jésus tout en ayant des relations homosexuelles, en vivant en état d'adultère, etc., etc. Nous devons particulièrement garder en mémoire cette conviction énergique de Jean-Paul II qui vaut pour tous les hommes de tous les temps. Le corps et l'âme sont indissociables, ils demeurent ou ils se perdent ensemble. La théorie du gender, qui va être de plus en plus répandue, pourrait être justifiée par cette théorie erronée et si dangereuse. Pierre-Olivier Ardouin n'a pas pu cette année participer à notre session car il travaille pour sa thèse. Il nous a si souvent parlé de cette théorie et de la grave erreur actuelle, le rejet de la nature. Jean-Paul Sartre fait partie des philosophes qui ont contribué à ce rejet. L'évidence pourtant est là. L'homme n'est pas Dieu. Il est une créature de Dieu. Il est créé en étant limité par sa nature. Refuser la nature, c'est refuser la réalité. Refuser le fait que l'on est homme ou femme, c'est refuser la réalité. Soyons donc des témoins courageux de ce premier chapitre de Veritatis Splendor. Il y va non seulement du salut des âmes, mais aussi de la subsistance de l'humanité. Car que deviendrait l'humanité si la théorie du gender s'imposait ? Les témoignages vous ont permis de constater que tous vous rencontriez les mêmes difficultés dans l'éducation de vos enfants ou dans votre témoignage de chrétien. Ces témoignages devraient nous faire toucher du doigt l'importance de faire connaître la loi naturelle. À ce propos, comme Pierre-Olivier Ardouin l'avait dit l'année dernière, il est très important d'approfondir le texte de la Commission théologique internationale sur la loi naturelle. C'est un texte très précis, très clair et qui s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. L'enseignement moral sur la loi naturelle fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Dimanche matin, nous avons abordé la deuxième partie du deuxième chapitre, Conscience, vérité. Ce thème était l'objet de notre forum de février en ce même foyer de Sens. Benoît XVI, mieux que nous, comprend l'ampleur du combat dans lequel nous sommes engagés. C'est lui qui a créé l'expression « dictature du relativisme ». Cette expression signifie le combat des ténèbres contre la lumière, du mensonge contre la vérité. Beaucoup aujourd'hui ne savent plus ce qu'est la vérité, ou alors ils feignent de ne pas le savoir, en prenant à leur compte la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité ? Il est donc urgent de rappeler que la conscience morale ne crée pas les valeurs morales, elle est au plus intime de notre être, le témoin de ces valeurs. Elle est comme la voix de Dieu qui me commande de faire le bien et d'éviter le mal. Grâce à Jean-Paul II, nous avons mieux compris ce rôle de la conscience morale. Mais grâce à lui aussi, nous devons souligner que la conscience morale n'empêche pas la mission personnelle de chacun, n'éteint pas le dynamisme de la liberté, son enthousiasme, sa créativité. Elle les permet tout au contraire. En effet, En commandant fermement de ne pas faire le mal, la conscience morale préserve la liberté personnelle et la maintient dans la grâce de Dieu et la liberté spirituelle. En demandant de faire le bien, la conscience morale libère des énergies d'amour exceptionnelles qui ne sont mesurées par aucune limite et qui ont permis aux saints de faire œuvre d'authentique créativité pour la gloire de Dieu et le service de tant de frères blessés ou découragés. Redisons encore, le magistère ne crée pas d'inutiles conflits de conscience, mais il est un nouveau don de Dieu pour permettre à la conscience éclairée de demeurer dans la vérité, car l'homme n'est vraiment libre que dans la vérité. Les témoignages ont montré votre difficulté de témoigner de la vérité en notre monde où le mensonge règne. Témoignages de parents qui doivent sans cesse revoir avec leurs enfants cette question de la vérité parce que à l'école, avec leurs amis, dans les milieux de loisirs, etc., ils entendent beaucoup de choses contraires à ce qu'ils ont déjà entendu. Témoignage aussi de ceux qui, dans ce monde du travail, dans la famille, et nous avons eu un témoignage très poignant aussi, hein, nous ont montré eh bien, que pour être témoin de la vérité, on participe souvent à la croix de Jésus. Mais Jean-Paul II nous dit, n'ayez pas peur, la vérité rend libre. Et imitant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je n'ai jamais cherché que la vérité. Dimanche après la messe, nous avons abordé la troisième partie du deuxième chapitre. Pas très facile à assimiler, pas très facile pour moi non plus à présenter. Pour essayer de vous la présenter facile, d'une façon simple. Il est bien évident que lorsque l'on entend pour la première fois une synthèse sur la théorie morale de l'option fondamentale, on peut vraiment être dérouté. Et si vous n'avez pas été dérouté, c'est que peut-être je n'ai pas été assez simple pour vous faire comprendre la question. Rappelons-nous surtout la réponse claire, ferme et donnée avec autorité par Jean-Paul II. On ne peut pas faire en même temps le choix de Dieu et le choix conscient et libre du péché mortel. Comme on n'a plus de métaphysique, on n'a plus une pensée charpentée. Dans la métaphysique, le premier principe de tous les principes, c'est on ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Si on supprime ce principe, il n'y a plus de discours possible. Donc on ne peut pas faire le choix de Dieu et on ne peut pas faire le choix libre et conscient du péché mortel qui nous coupe de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre de la grâce sanctifiante et de la charité du fait de l'option fondamentale et accomplir des actes qui sont délibérément et gravement contraires au commandement de Dieu. Cela serait en contradiction grave avec l'enseignement de l'Église et plus particulièrement du Concile de Trente. Le péché mortel, Jean-Paul II l'a rappelé, fait toujours perdre la grâce et la charité. Mais seulement la grâce, qu'est-ce que ça veut dire pour beaucoup aujourd'hui ? Cette vie de Dieu participée qui nous a été donnée au moment du baptême. Ce péché ne consiste donc pas seulement en la rupture de l'option fondamentale, au rejet explicite de Dieu, mais chaque fois que on a méprisé un des 10 articles de la loi gravement et avec pleine conscience, et en sachant que cela était contraire à la volonté de Dieu, eh bien, on a fait cette rupture avec la grâce et la charité. Les témoignages qui ont suivi cet enseignement l'ont actualisé d'une manière très claire. Si l'on fait le choix fondamental de Dieu, on ne peut pas faire un choix différent en ce qui concerne l'amour humain et le respect de la vie. Le dimanche après-midi, nous avons abordé la quatrième partie du deuxième chapitre. Et cela nous a permis de revoir l'enseignement traditionnel de l'Église sur l'acte moral, dont il faut toujours considérer l'objet, l'intention et les circonstances. Jean-Paul II a rappelé qu'il existait des actes intrinsèquement mauvais que l'on n'avait jamais le droit d'accomplir, quelle que soit l'intention, quelles que soient les circonstances. Ces actes intrinsèquement mauvais sont ceux que nous avons appelés les valeurs non négociables. Nous avons constaté l'urgence de l'éducation. Qui aujourd'hui est éduqué à agir moralement avec une intention droite et en choisissant des fins et des moyens qui ne sont pas contraires à la volonté de Dieu et à la dignité de l'homme? Recitons ce que nous disions hier après-midi, les actes humains qualifient moralement la personne qui les accomplit. Nous sommes nos propres parents en nous créant nous-mêmes, par nos propres actes et en devenant ainsi bons ou mauvais moralement. Prenons très au sérieux ce que disait Jean-Paul II et comprenons combien il est nécessaire d'éduquer les cœurs à vivre moralement. Une petite question qui est revenue après au sujet justement de ces actes intrinsèquement mauvais que l'on n'a jamais le droit d'accomplir, particulièrement qui nous est venue de cette question de militaires qui sont parmi nous et je comprends très bien cette question. J'ai manqué de précision dans la traduction du commandement, du cinquième commandement. C'est vrai qu'on traduit « tu ne tueras pas », mais le mot précis « tu ne commettras pas de meurtre ». Je crois que c'est important pour apaiser les consciences, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a le devoir de défendre le devoir de défendre les innocents. Donc un militaire n'est pas devenu militaire pour tuer, mais pour défendre, pour protéger. Voilà. Alors donc, je pense que là aussi, il faut bien voir ce qui a été précisé, puisque la peine de mort dans la Bible existait. Hein? Donc, elle n'est pas contraire à la loi naturelle, même si aujourd'hui Jean-Paul II dit qu'il faut tout faire pour l'éviter, pour trouver d'autres moyens conformes, plus conformes à la dignité de la personne humaine. Voilà. Je pense que c'est un sujet qui mériterait des approfondissements et qui mérite d'entendre d'abord, parce qu'on ne peut pas répondre de façon théorique, hein. Il faut entendre ceux qui sont justement sur le terrain et entendre leurs questions, parce que ce sont eux qui peuvent nous donner aussi les réponses. Le dimanche soir, nous avons abordé le troisième chapitre de Veritatis Splendor que nous avons fini ce matin. Et nous avons souligné, vous voyez qu'à nouveau, nous sommes centrés sur Jésus. Nous sommes centrés sur la splendeur de la vérité. Il n'est inutile de répéter tout ce qu'on a dit hier soir, puisque vous l'avez suffisamment dans la mémoire encore. Mais je vous redis cette conviction de Jean-Paul II. Jésus est la synthèse vivante et personnelle de la liberté parfaite dans l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Son corps crucifié est la pleine révélation du lien indissoluble entre la liberté et la vérité, de même que sa résurrection des morts est la suprême exaltation de la fécondité et de la force salvifique d'une liberté vécue dans la vérité. Je vous avoue que je n'ai pas encore compris en plénitude tout ce que Jean-Paul II veut nous dire par là. Cela veut dire qu'il faut continuer à méditer et à essayer de comprendre encore plus profondément ce que le pape veut nous dire. Et Benoît XVI, mais je n'ai pas la citation, a dit exactement la même chose. Le lien entre la liberté et la vérité nous est révélé par Jésus crucifié. Alors, continuons à méditer pour mieux comprendre encore tout ce que le pape voulait nous dire. La nouvelle évangélisation ne consiste pas seulement à transmettre une parole à écouter, elle est une éducation des cœurs pour vivre à la ressemblance de Jésus. Il faut entendre la vérité, il faut la comprendre, il faut l'assimiler, mais où il faut aussi faire la vérité. Ça, Saint Jean a bien souligné cette expression qui vient de Jésus lui-même. Dans ce troisième chapitre, Jean-Paul II reprend le passage évangélique du jeune homme riche, commenté dans le premier chapitre, pour indiquer aux hommes ce qu'il fallait faire pour obtenir la vie éternelle. Pour que la croix du Christ ne soit pas réduite à néant, il est nécessaire que la nouvelle évangélisation soit réalisée dans son intégralité. La transmission de la foi, Loïc l'a rappelé hier, et nous l'avions redit l'année dernière au cours de notre session, consiste à transmettre les 12 articles du symbole des apôtres, les 7 sacrements, les 10 commandements de Dieu et les 7 demandes du Notre Père. Pour réaliser la nouvelle évangélisation, nous avons dit ce matin le programme donné par Jean-Paul II en 1988 avec 3 défis importants: reconstruire l'unité dans la vérité en écoutant le message du Christ et en le vivant avec cohérence. Ça, c'est tout à fait Veritatis Splendor. Donc, il faut reconstruire ce qui était la force de l'Europe à la fin du premier millénaire. Deuxième, réagir avec courage et décision contre la déchristianisation. Je crois que là aussi, il faut que nous soyons tous bien d'accord sur cette œuvre. Monsieur Jean-Luc Bougard, vous nous a donné ce témoignage, qui nous a dit tout simple et tout humble, oui, mais depuis 30 ans, eh bien, avec un petit billet envoyé dans l'urne républicaine, eh bien, il fait cet acte de réaction avec courage et décision, sans violer les consciences, sans utiliser la violence, mais tout simplement pour bien montrer que nous sommes dans une culture déchristianisée. Nous ne sommes pas dans la même situation que l'Empire romain avant la christianisation. Nous ne sommes pas une culture qui est marquée par d'autres courants comme des cultures arabes, comme des cultures arabes qui sont marquées par l'islam. Nous sommes marqués par le christianisme, c'est notre identité. Et Benoît XVI a loué le courage des hommes politiques italiens qui ont demandé de garder les croix dans les établissements publics parce que la croix pour l'Italie était le signe de la culture italienne. Et heureusement qu'il y a aussi d'autres gouvernements comme en Pologne ou en Croatie où on a soutenu les Italiens. Troisième partie, reconstruire les consciences à la lumière de l'évangile de Christ, cœur de la civilisation européenne. Je pense que tout cela sera au cœur du prochain synode de 2013 qui va aborder la question de la nouvelle évangélisation. Et comme Benoît XVI l'a dit, la nouvelle évangélisation est une œuvre difficile parce que il faut justement ce travail de reconstruction et de réaction, encore une fois, avec les valeurs de l'évangile, pas du tout avec la violence. La violence n'entraîne à rien. Imitons Jean-Paul II et Benoît XVI, je conclue par ici. Chaque mois, nous envoyons à ceux qui le désirent notre consigne de cordée. Si vous désirez la recevoir, il suffit que vous nous donniez votre adresse mail et ça ne vous coûtera rien. Si vous voulez nous envoyer une petite boule, vous l'envoyez. C'est accueillant. Bon, ah oui, à ce sujet, d'ailleurs, on n'a pas encore dit, parce que certains peuvent se faire du souci, mais la session. Alors, il y a des troncs d'offrande. Vous mettez dans le tronc d'offrande ce que le Saint-Esprit vous inspirera. Hein, voilà, parce que nous vivons de la providence chaque jour. Hein, donc, voilà, vous mettez dans le tronc d'offrande ce que vous pensez devoir mettre pour la participation à cette session et pour nous aider à vivre aussi. Voilà. Alors donc, chaque semaine, chaque mois, nous vous envoyons une petite consigne cordée qui peut vous aider. Hein, si, encore une fois, vous avez tellement de choses, il y en a qui ont beaucoup d'autres choses. Bon, mais très bien, c'est tout à fait libre. Alors, cette consigne cordée du mois de juillet, nous l'avons centrée sur la splendeur de la vérité, puisque c'était le thème de notre session. Nous avons invité nos amis à prier et à imiter les saints pour obtenir le grand désir de témoigner de la vérité et d'en être ses coopérateurs. Selon la devise de Benoît XVI, tirée de Saint Jean, coopérateur de la vérité. Donc, d'où vient cette devise? C'est la troisième de Saint Jean, verset 8. Donc, c'est facile à lire la troisième de Saint Jean, il n'y a que quelques versets. Donc, ce n'est pas difficile du tout. Cette expression a été choisie par Joseph Ratzinger comme devise et a été choisie à nouveau par Benoît XVI comme pour sa devise de pape. Elle révèle bien que la vérité n'est pas une idée abstraite. On ne coopère pas en effet avec une idée. On coopère avec une personne. Et cette personne est Jésus, le Verbe incarné. Comprenons que dans notre contexte relativiste, il est urgent que se lèvent, à la suite de Jean-Paul II et de Benoît XVI, de nouveaux coopérateurs de la vérité pour s'opposer aux dictatures du relativisme qui veulent imposer des contre-valeurs comme la théorie du gender, le mariage homosexuel, le déni du caractère sacré de la vie humaine. Ça aussi, on vient d'inventer, vous voyez, avec les mots, hein, déni de grossesse. Comme si on pouvait, dans le droit, avoir un déni de grossesse. Alors que, eh bien, c'est entré dans le droit. Déni. Voilà. Alors, déni de la loi naturelle, déni de leur fondement ultime, Dieu. En ouvrant le conclave, le cardinal Ratzinger avait dit: posséder une foi claire, selon le credo de l'Église, est souvent défini comme du fondamentalisme, tandis que le relativisme, c'est-à-dire se laisser entraîner à tout vent de la doctrine, apparaît comme l'unique attitude à la hauteur de l'époque actuelle. L'on est en train de mettre sur pied une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego et ses désirs. Que Jésus soit notre modèle. Je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Soyons des pèlerins de la vérité, avec Benoît XVI. Saint Jacques le Majeur, que nous allons bientôt fêter, a été ce pèlerin, le premier apôtre martyr. Il s'est dépensé sans compter pour l'évangélisation. Saint Ignace de Loyola, que nous fêterons aussi à la fin du mois de juillet, après sa conversion, n'avait plus qu'un seul grand désir, la plus grande gloire de Dieu. Jean-Paul II nous dit, au terme de cette session, numéro 117 de son encyclique: dans le cœur du chrétien, au plus profond de tout être humain, se fait toujours entendre la question qu'adressa un jour à Jésus le jeune homme de l'Évangile. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Mais c'est au bon maître qu'il faut l'adresser, parce que lui seul peut répondre dans la plénitude de la vérité, en toutes circonstances, dans les situations les plus diverses. Et lorsque les chrétiens lui adressent cette question, qui monte de leur conscience, le Seigneur répond par les paroles de l'alliance nouvelle confiée à son Église. Or, comme le dit l'apôtre à son propre sujet, nous sommes envoyés annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. C'est pour cela que la réponse de l'Église à la question de l'homme possède la sagesse et la puissance du Christ crucifié, la vérité qui se donne. Quand les hommes présentent à l'Église les questions de leur conscience, quand à l'intérieur de l'Église, les fidèles s'adressent à leurs évêques et à leurs pasteurs, c'est la voix de Jésus-Christ, la voix de la vérité sur le bien et le mal qu'on entend dans la réponse de l'Église. Dans la parole prononcée par l'Église retentit à l'intime de l'être la voix de Dieu qui seul est le bon, qui seul est amour. C'est encore l'apôtre Paul qui nous invite à la confiance parce que notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, une alliance qui n'est pas celle de la lettre et de la loi, mais celle de l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, est, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire par l'action du Seigneur qui est Esprit. Le Père Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, disait le 30 octobre 2005, ça sera la conclusion, quelques mois après la mort de Jean-Paul II et l'élection de Benoît XVI. Jésus est la révélation suprême et définitive de Dieu aux hommes, qui contient toutes les révélations partielles qui ont eu lieu avant ou après lui. Il ne s'est pas limité à nous révéler qui est Dieu, il nous a également dit ce que Dieu veut, quelle est sa volonté sur nous. Il faut rappeler cela à l'homme d'aujourd'hui, tenté par le relativisme éthique. Jean-Paul II l'a fait avec l'encyclique Veritatis Splendor et son successeur Benoît XVI ne se lasse pas d'y insister. Et Benoît XVI, en janvier 2006, disait au corps diplomatique accrédité « Le mensonge se revêt souvent d'une apparente vérité, mais en réalité il est toujours sélectif et tendancieux. Orienté de manière égoïste vers une instrumentalisation de l'homme et en définitive vers sa soumission. Des systèmes politiques du passé, mais non seulement du passé, en sont une preuve amère. À l'opposé se situent la vérité et la véracité qui portent à la rencontre d'autrui, à sa reconnaissance et à l'entente. Par la splendeur qui lui est propre, la splendeur veritatis, la vérité ne peut pas ne pas se répandre et l'amour du vrai est, par son dynamisme intrinsèque, tout tourné vers une compréhension impartiale et équitable et vers le partage en dépit de toutes sortes de difficultés. Ô Marie, Mère du Verbe incarné, Mère de la vérité en personne, Notre-Dame des Neiges et Mère de la Miséricorde, bénis-nous et permets-nous de participer avec Benoît XVI, les évêques unis à lui, les prêtres, les diacres, les consacrés et les laïcs, à la nouvelle évangélisation. Rends-nous témoins et coopérateurs courageux de la vérité. Voilà. Un parmi vous m'a demandé de remercier le Salon Belge qui a bien daigné parler de notre session. Et donc c'est vrai que nous le remercions et parce que il rapporte plusieurs fois dans son blog nos activités, particulièrement il s'engage beaucoup pour la Marche pour la Vie. Donc si vous voulez avoir des informations objectives à la fois sur le pape et une autre vision des événements dans le monde, je vous invite aussi à lire le Salon Belge. Donc, merci au Salon Belge, hein, et merci aussi à tous ceux qui essayent de travailler pour la vérité. Voilà. Alors, pour l'année prochaine, voilà. Pour l'année prochaine, il me semble d'abord que pour le forum du mois de février. Alors le forum donc, se déroule un petit peu d'une manière enfin, assez libre aussi, hein, mais c'est davantage des partages aussi, des questions, chacun intervient. On pourrait prendre pour le forum foi et raison. Voilà, hein, foi et raison, l'encyclique de Jean-Paul II qui est très importante. Donc le forum se fera au mois de février. Voilà. Bon, et pour la session. Voilà, j'avais cette idée, puisqu'on a quand même beaucoup fait maintenant avec Jean-Paul II, donc on a fait Humanévité, de Longuité, la transmission de la foi, bon, c'était Joseph Ratzinger, cette fois-ci Veritatis Splendor, on aurait pu prendre l'encyclique sur l'amour de Dieu. Bon, mais il y a peut-être une autre priorité, que Béatrice m'a dit tout à l'heure, le fondement de la dignité de la personne humaine. Peut-être que c'est plus urgent aujourd'hui pour justement mettre en application le combat, pour lutter contre la déchristianisation et réagir et restaurer, de parler du fondement de la dignité de la personne humaine, puisque ça touche à la fois les questions de bioéthique, les questions morales, toutes les questions. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'ai pensé comme Béatrice.
Hein ? C'est judicieux et on verra peut-être là, c'est un sujet qui intéresse
aujourd'hui. De toute manière, en Europe, Pierre-Olivier Ardouin, c'est sûr. Il sera thésard à ce moment-là. Bon, il faut le soutenir pour qu'il puisse obtenir sa thèse.
On revient
à
une crise quand même
de l'identité
aux États-Unis.
Oui, là-bas, allez-y.
Bioéthique, éthique, voilà. C'est une certaine observance, un certain respect de la vie, un total respect de la vie, exige qu'on en parle. Voilà.
C'est vrai que l'amour de Dieu est un sujet important. Alors, qu'en pense Bernard ? Il se contient, il m'a dit, je n'ai pas trop...
Moi, il n'y a que l'évolution pour laquelle je suis contre le reste.
Et la parole de Dieu.
Là. Moi, j'ai pensé comme Michel.
Affaire bonne.
Bon, alors, on va continuer à réfléchir. D'abord, simplement pour savoir.